Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais utiliser le micro, bien que je n'en ai pas forcément besoin dans cette petite salle, parce qu'il paraît que c'est enregistré. Alors, ça reste pour la postérité. Vous imaginez l'importance des propos que l'on va tenir, mesdames et messieurs. Alors, on est ici dans la quatrième conférence consacrée à l'histoire de notre orchestre, de notre merveilleux orchestre, dont le délégué artistique Didier Cotignier est là aujourd'hui, et on le remercie, et on remercie. Et on le remercie d'être là, non seulement aujourd'hui, mais à la direction de l'orchestre, parce que c'est grâce à lui que des chefs d'orchestre extraordinaires, des solistes extraordinaires viennent. Et je ne sais pas si vous étiez au concert de dimanche dernier, c'était un éblouissement. Hein. Et Charles Dutoit, d'ailleurs, va revenir encore ici, grâce à Didier de Cotigny. Alors donc, nous sommes dans une série de conférences sur l'histoire de notre orchestre. Et au fur et à mesure, évidemment, que nous nous rapprochons de l'époque contemporaine, nous avons évidemment de plus en plus de témoins. Je rappelle que cet orchestre a été créé au milieu des années 1850 par Charles III. Charles III qui a construit le nouveau quartier de Monte-Carlo, qui a révolutionné l'histoire de Monte-Carlo en créant le casino, l'Hôtel de Paris, en faisant venir les touristes, en faisant venir les joueurs. Et autour du casino, il avait organisé une vie culturelle avec en particulier la création d'un orchestre qui n'était pas encore un orchestre symphonique, puisque dans les années, enfin en 1856, il n'y avait que 20 musiciens, mais c'était le début d'un orchestre et c'était le début de notre bel et grand orchestre. Alors par la suite, évidemment, les finances de la principauté de Monaco sont devenues de plus en plus prospères grâce à la réussite du casino, à tel point que Charles III décida d'annuler les impôts, hein, de Monaco. Eh oui. Oui, absolument. Et bah oui, il a dit finalement, nous avons tellement d'argent qui rentre, plus besoin de faire payer les monégasques. C'est à la suite de la richesse apportée par le casino de Monte-Carlo que Charles III a pris cette décision, que les princes descendants regrettent peut-être un petit peu maintenant. Hein. Mais enfin, c'est fait, de toute façon, aucun prince, je pense, n'osera revenir sur cette décision de Charles III. Et donc, la principauté étant de plus en plus prospère, l'orchestre grandit. Et dans les années 1880, c'est là que nous en étions la fois dernière, l'orchestre a déjà 80 musiciens, 70 musiciens, ce qui est déjà un grand et bel orchestre symphonique. Et à la tête de cet orchestre, eh bien, le prince a fait venir un chef d'orchestre dont vous avez le portrait, là, ici, en entrant à gauche, qui est Roméo Accorsi, qui est un chef d'orchestre dont l'oncle est très célèbre. La musique, c'est une affaire de famille, d'ailleurs, vous allez le constater tout à l'heure. Dont l'oncle est très célèbre, c'est Donizetti, vous savez, le grand compositeur Donizetti. Et donc son neveu, Roméo Accorsi, vient pendant 10 ans diriger l'orchestre philharmonique de Monte, enfin l'orchestre de Monaco qui ne s'appelait pas encore orchestre philharmonique. Et évidemment, il fait, bah, j'allais dire, la part belle au répertoire italien. Hein, c'est un Italien et les Monégasques découvrent hein, toutes les ouvrages lyriques, les ouvrages symphoniques issus de l'Italie. Et puis après, et nous en étions là la fois dernière, dans les années 1880, bien Roméo Accorsi partit et arriva un autre chef d'orchestre qui s'appelait Arthur Steck. Alors lui venait de Belgique et lui a proposé au répertoire, au public monégasque, un répertoire plus français, plus allemand. Et donc, entre Roméo Accorsi et Arthur Steck, les musiciens ont pu découvrir, les mélomanes ont pu découvrir à la fois le répertoire italien, le répertoire français, le répertoire allemand. C'est là qu'on a commencé à entendre pour la première fois du Wagner à Monaco. Et je vous rappelle, la fois dernière, si vous étiez là, que à l'un des concerts consacrés à Richard Wagner se trouvait Friedrich Nietzsche. Qui était là et qui, ma foi, était très impressionné par le concert auquel il a assisté. Il était en résidence à Nice, hein, et à Nice. C'est là d'ailleurs qu'il a écrit une partie de Zarathoustra, Hein, vous connaissez le chemin Nietzsche à Èze, et c'est là qu'il a trouvé l'inspiration d'une partie de Zarathoustra. Zarathoustra, d'ailleurs, qui a inspiré un célèbre poème symphonique, Ainsi parla Zarathoustra, qui sera programmé dimanche prochain pour le dernier concert de l'année sous la direction de Kazuki Yamada. Je vous invite tout à fait à venir assister à ce concert. Vous savez qu'Ainsi parla Zarathoustra, c'est cette œuvre absolument monumentale dont les premières mesures servent de bande musicale au film 2001 l'Odyssée de l'espace. Vous savez, c'est cet arpège de do majeur extraordinaire, hein, qui se déploie avec l'orchestre, avec le grand orgue, soutenu par les roulements de timbales. C'est absolument prodigieux, cette œuvre, inspirée par Nietzsche. Nietzsche, qui était donc un auditeur de l'opéra de Monte-Carlo dans les années 1880. C'est aussi l'époque, et je finis de résumer ce que j'avais raconté la fois dernière, au cours de laquelle Charles III a pris cette décision extraordinaire de faire construire un nouvel opéra. Et il a appelé Charles Garnier à construire cette salle, qui est la salle Garnier, hein, qu'il a construite en 8 mois. C'est une prouesse extraordinaire. Hein. Il avait fait venir des ouvriers qui travaillaient nuit et jour pour construire un tel bâtiment. Parfois, à notre époque, il faudrait 3-4 ans. Lui, en 8 mois, il a construit ce bâtiment, faisant travailler les ouvriers nuit et jour grâce à une nouvelle invention technique qui était l'électricité, qui permettait aux ouvriers de travailler la nuit. Il avait installé en contrebas du plateau des Spélugues une locomotive à vapeur qui faisait tourner les turbines et qui permettait de fournir de l'électricité la nuit, et donc permettre ainsi aux ouvriers de travailler. Donc c'est cette époque où il y a eu cette nouvelle salle qui était, je me permets de le rappeler, à l'origine pas une salle d'opéra, qui était une salle de concert. Cette salle a été prévue, alors elle est devenue par la suite bien entendu une salle d'opéra, cette salle d'opéra que nous chérissons aujourd'hui, mais à l'origine c'était une salle de concert parce que l'orchestre jouait 2 fois par jour à 17h. Et le soir, et pour les concerts de 17h, eh bien, Charles Garnier, à la demande du prince, avait prévu que les fenêtres soient ouvertes sur la mer, pour que ce soit un concert de jour, quoi. Voilà pourquoi l'opéra de Monte-Carlo a cette bizarrerie d'avoir ces grandes fenêtres ouvertes sur la mer, pour permettre les concerts de 17h. Je signale d'ailleurs au passage que les musiciens à cette époque-là avaient une activité staccanoviste, c'est-à-dire ils répétaient le matin et ils donnaient un concert l'après-midi et un concert le soir, et tous les jours. C'est-à-dire, c'est pris en salle. Je ne sais pas ce qu'auraient dit les syndicats à notre époque, mais nous allons y venir justement. Et c'est à cette époque que bien un grand recrutement de musiciens a été fait. Et parmi ces musiciens, eh bien, un musicien dont nous avons parlé la fois dernière, mais dont nous allons reparler maintenant, qui était Jules Lechner. Alors Jules Lechner, pourquoi est-il si particulier ? Ben, d'abord parce qu'il était le timbalier. Alors un timbalier a toujours une position très particulière dans l'orchestre. Vous savez, c'est le musicien qui fait tant de bruit au dernier rang de l'orchestre. Et puis quand il frappe sur ses timbales, ça se remarque. Surtout en particulier dimanche prochain dans Ainsi parla Zarathoustra. Et donc, ce musicien, vous allez le comprendre, avait également une grande personnalité et il devint plus ou moins le délégué de l'orchestre. Nous allons en parler. Et pourquoi nous parlons de ce musicien ? C'est parce qu'effectivement, géographiquement, il a une position particulière dans l'orchestre, mais c'est que, avec notre présidente, nous avons fait appel à la population monégasque pour savoir si parmi vous, il y avait des gens qui avaient des documents sur l'orchestre, des documents anciens. Il est évident que dans 2 ou 3 séances, lorsque nous allons parler de l'époque moderne, nous aurons des témoins directs. Hein, il y a des musiciens qui ont aujourd'hui 80 ans et qui ont participé à la vie de l'orchestre après la Deuxième Guerre mondiale, et on les fera venir et ils apporteraient le témoignage. Mais pour le 19e siècle, évidemment, les témoignages sont beaucoup plus rares. Et pourtant, nous en avons. C'est ainsi que deux personnes qui vont venir sur scène me rejoindre dans quelques instants, les sœurs Lechner, sont les descendantes directes de ce musicien. Et elles nous avaient présenté des documents la fois dernière, des documents tout à fait intéressants. Mais comme on était relativement peu nombreux la fois dernière, je demandais est-ce qu'elles reviennent et qu'elles nous fassent réentendre les documents qu'elles nous ont amenés. Pardon pour ceux qui les ont entendus la fois dernière, mais vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Et puis, d'autres personnes se sont manifestées aussi. Je vois ici dans la salle Madame Bozio qui nous a apporté des documents sur son... sur son père, qui a été régisseur des premiers concerts du Palais Princier. Donc, Madame reviendra nous apporter des documents. Et puis, nous avons dans la salle alors une experte, hein, l'historienne musicale de Monaco, qui est Raphaël Doublier, qui, elle aussi, a découvert des documents. Elle va venir nous en parler dans quelques instants. Et... tout ce travail a été fait, évidemment, grâce aux archives du Palais, mais également par le concours de l'Alliance française, dont nous avons le président dans la salle. Monsieur le Président, on vous remercie d'être là. On est toujours heureux de saluer des présidents, celui de l'Alliance française en particulier. Alors, voilà. Mesdames, je vais vous faire venir. Alors, voilà. Alors, c'est elle qui... Mais non, mais venez quand même vous présenter au public. Voilà, voilà. Voilà, venez, venez. Alors, voilà. Les descendantes... Mais quand je vous dis les descendantes, ce ne sont pas les seules descendantes, parce que, vous avez dit, il y a plusieurs générations. Alors, d'abord, vous allez vous présenter vous-même. Alors votre prénom vous-même, vous, c'est Isabelle.
Moi, c'est Isabelle Bianchieri. Alors. Mais pas bonjour, je pense que ça va.
Mais oui, non, mais c'est pour l'enregistrement. C'est enregistré.
Alors, Isabelle Bianchieri Lechner. Oui. Et Dominique Lechner, et nous sommes les arrière-petites-filles de Jules. Alors, Jules Lechner. Avec des belles moustaches.
Oui, mais attendez, mais je crois que... Est-ce que vous l'avez repéré là sur la photo?
Oui,
est-ce
sûr.
Qu'on peut avoir la photo précise? Ah, voilà.
Alors, il est là.
Oui.
Et à gauche. Et il est là.
Voilà.
Ici, plus âgé.
Écoutez, il avait des moustaches magnifiques.
Ils avaient pratiquement tous des moustaches.
Comme à l'époque. D'ailleurs, je fais remarquer, si on a la photo précédente, vous remarquerez, il n'y a que des hommes à l'orchestre. Parce qu'à cette époque-là, et des moustachus.
Là, il y en avait une.
Des moustachus, oui.
Il y avait une pianiste.
Alors,
c'était une pianiste.
Sauf, alors, sauf la harpiste pianiste. Sauf la harpiste pianiste, effectivement, parce que c'est une tradition. Mais... Par ailleurs, il n'y a que des hommes, non seulement à l'orchestre de Monte-Carlo, mais également de tous les orchestres du monde. À cette époque-là, on ne recrute que des musiciens hommes. D'ailleurs, parenthèse, l'orchestre philharmonique de Berlin et l'orchestre philharmonique de Vienne n'ont accueilli leur première femme qu'en 1990. 1990, c'est-à-dire très, très, très récemment. Très récemment. Je me souviens, je vais faire une parenthèse, que nous étions très fiers au Conservatoire de Nice d'avoir une harpiste qui s'appelait Julie Paloc, qui avait réussi le concours d'entrée à l'Orchestre Philharmonique de Vienne. C'était un succès extraordinaire. Alors, elle a eu un rôle de stagiaire, comme ça, et avant d'être éventuellement titularisée, ça se passait dans les années 1990, et les hommes de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, vous savez, ce prestigieux orchestre hein, qu'on voit toutes les années au concert du Nouvel An, l'ont mené tellement la vie dure qu'elle a démissionné au bout de quelques semaines. Non, ils ne toléraient pas. Et puis maintenant, ben, ma foi, nous avons des femmes dans les orchestres, nous avons ici à l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, bien sûr, mais je vous parle des années 1990, pas des années 1890. Donc effectivement, alors à part une femme... Alors, vous nous le remontrez, là, il est là. Ah, oui. Il a toujours ses moustaches. Alors, vous parlez au micro.
Donc, le numéro 38, parce qu'on a, grâce à la numérotation, c'était Odor Hüffner, qui était son beau-frère.
Ah, d'accord.
Qui était aussi, je ne sais plus s'il était violoniste ou du basson, enfin, il jouait de quelque chose aussi.
D'accord, absolument. Voilà. Oui, parce que j'avais repéré qu'il y avait, deux flèches, alors je ne comprenais pas. Alors voilà, il y a le beau-frère.
Beau-frère.
Bah, Ben oui, vous prouvez, la musique est une affaire de famille. Alors, je disais tout à l'heure que votre aïeul a été, d'une certaine façon, un peu délégué de l'orchestre. Hein. Vous avez une lettre dans laquelle...
Je ne sais pas s'il est délégué, mais il se proposait pour le renouvellement des instruments, ouais. Des choses comme ça. Délégué, je ne suis pas trop sûre.
Ah, écoutez, vous m'avez montré une lettre dans laquelle il écrit au directeur qu'il travaille trop.
Oui, mais je pense qu'il parlait un peu de lui. Hein. Je ne sais pas s'il était au nom des autres, mais enfin, c'est vrai les services augmentaient et les émoluments n'augmentaient pas.
Ah oui,
Et puis, je ne pense pas que les salaires ne devaient pas être extraordinaires. Et puis, il n'y avait pas toutes les garanties maintenant.
Oui, bien sûr. Parce qu'il faisait d'autres métiers. Alors, il s'occupait de l'association vélocipédiste.
Alors, il était à l'initiative de l'association du sport vélocipédique à Monaco,
oui.
Qui est la fanfare vélocipédique. Et ce club-là, c'était l'ancêtre de l'automobile club. C'est devenu l'automobile club. Après, parce qu'il n'y avait pas encore de voiture.
Oui.
Après, je pense que les vélos ont dû disparaître. Oui. Et il y avait, dans les manifestations, il y avait des défilés d'hommes à vélo. Et dans certains articles du journal de Monaco de l'époque, on cite par exemple que la fanfare du sport vélocipédique de Monaco est allée accueillir celle de Vintimille et ils sont venus en défilé pour, je crois que c'était une manifestation pour Louis II. Enfin, non, c'était les fanfares, il y en avait à foison après les guerres.
Oui. Voilà.
Donc, et il avait écrit, j'ai trouvé dans un article, mais pas de trace, une polka par exemple pour cette fanfare-là.
Parce qu'il était compositeur. On va y venir dans quelques instants. On va même entendre une œuvre tout à fait magnifique de sa part. Et vous ne m'avez pas raconté qu'il avait fabriqué également des instruments pour défiler.
Il avait modifié les trompettes. Là, je pense que c'est des instruments avant qu'ils avaient pour pouvoir conduire le vélo et jouer quand même de l'instrument. Donc, il avait dû enlever des pistons, modifier des pistons.
Incroyable, ça.
Ben oui. Hein.
Oui.
Voilà. Puis il avait été chargé aussi de créer la fanfare des carabiniers.
Oui. Important.
Ben oui. Il donnait aussi. Il avait créé la chorale L'Avenir qui chantait pour toujours les manifestations sur Monégasque. Et puis en complément, il donnait des cours d'allemand et de musique au collège de la Visitation à Monacoville.
Parce que nous ne l'avons pas dit, il était allemand à l'origine.
Il était allemand, hein. Il arrivait d'Allemagne.
Et comme beaucoup de musiciens, il faut rappeler que le prince Charles III avait fait venir de Hombourg, c'est-à-dire d'Allemagne, François Blanc, le créateur et le directeur du casino de Monte-Carlo. Donc il y avait toute une filière allemande là qui venait. Oui, oui.
Et nous avons dans notre famille aussi... le beau-père, son beau-père,
oui.
Qui était Berst et qui lui était venu croupier.
Ah d'accord.
Voilà.
Ben oui.
Voilà donc.
Bien sûr,
il s'est marié ici avec une Strasbourgeoise. Enfin,
oui.
Donc on a plusieurs arrivées.
Et il a été naturalisé monégasque.
Oui.
Par Albert Ier. J'ai vu d'ailleurs.
Par Albert Ier en 1890.
C'est ça. Et Albert Ier. Était devenu prince l'année précédente, en 1889, puisque Charles III était mort en 1889. Vous avez des compléments à faire, là ? Oui.
Je disais simplement qu'à cette époque-là, Albert Ier a voulu remercier toutes ces personnes qui s'étaient expatriées et qui étaient venues participer à la prospérité de Monte-Carlo, et il leur a proposé la nationalité monégasque. Certains l'ont prise. Certains ne l'ont pas pris et ils la regrettent aujourd'hui, je pense.
Oui, d'accord.
C'est un grand attachement qu'on a pour Monaco parce que notre grand-père était très fier d'avoir été naturalisé par le prince Albert Ier.
Bien sûr, là on voit le prince Albert Ier, effectivement, et son épouse Alice Hine, qui a été importante dans la vie de leur... On en parlera, je pense, tout à l'heure. Avez-vous d'autres... Alors, moi, j'aurais aimé quand même que vous vous présentiez vous-même, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément. Vous avez été vous-même directrice de deux écoles importantes de Monaco. Et c'est-à-dire que pratiquement toute la principauté est passée entre vos mains.
Moitié, hein, presque.
Enfin, ouais.
C'est un quart en général. Il y a les quatre grandes écoles publiques. De toute façon, nous sommes toutes les deux... On était institutrices à la base. Donc, on est devenues professeurs des écoles. Et puis, on a évolué en directrice. Ma sœur était directrice à l'école des Carmes, puis à l'école de la Condamine. Et moi, j'étais directrice à l'école des Révoirs. Voilà.
Alors donc, votre aïeul a été nommé... Oh, quelle belle moustache quand même, hein.
Belle allure, belle allure.
Votre aïeul a été nommé donc à la fin du 19e siècle, mais il a vécu assez longtemps pour assister à la naissance de Régnier III. Et lors de la naissance de Régnier III, qui était un événement considérable dans l'histoire de la principauté de Monaco, car je fais une toute petite parenthèse, c'était l'époque où la dynastie Grimaldi risquait de s'éteindre. Hein, puisque le prince Louis II n'avait pas d'enfant, enfin n'avait pas d'enfant officiel, donc la succession avait été envisagée par un prince allemand qui faisait partie de la famille, mais donné à l'époque de la Première Guerre mondiale, et même de la Seconde Guerre mondiale, confier la principauté de Monaco à un prince allemand, ça faisait mauvais genre. Donc, le président de la République française, qui était Raymond Poincaré, avait fait un espèce de deal avec le prince Albert Ier pour officialiser et naturaliser monégasque une fille illégitime qu'avait le prince Louis II. Hein, parce que le prince Louis II, lorsqu'il avait fait son service militaire en Algérie, avait eu une fille, la princesse Charlotte. Et la princesse Charlotte, donc, a été officialisée comme la fille légitime du prince Louis II. Elle est devenue monégasque. Il a fallu lui trouver un mari. Il a fallu trouver un mari, mais un mari qui accepte de quitter son nom pour prendre le nom de Grimaldi. Et cet homme... Ce fut Edmond de Polignac, Pierre de Polignac, le prince Pierre. Voilà. Et donc, donc, ils ont eu un premier enfant, une fille, la princesse Antoinette, et ils ont eu un second enfant, alléluia, un garçon, le prince Régnier, et ça, c'était en 1923. Alors, le monde entier s'est réjoui de la naissance d'un prince, mais dans ces conditions si particulières, la France en particulier, mais l'Europe entière, et tous les monégasques se sont réjouis, et tous les monégasques ont envoyé plein de messages de félicitations, bien sûr, mais des messages concrets, comme en particulier... votre aïeul a composé une berceuse, la berceuse pour la naissance du prince Régnier. Et là, alors nous avons dans la salle une experte qui a fouillé tous les documents aux archives qui ont été envoyés à cette occasion. Et Raphaël Doublier, qui est vraiment l'historienne musicale de Monaco, si vous voulez peut-être venir, voilà, vous allez nous expliquer le travail que vous avez fait et comment vous avez mis la main sur cette berceuse que nous allons entendre dans quelques instants.
Et Raphaël et l'Alliance française que nous remercions, parce que grâce à eux que nous avons pu découvrir cette
Venez, Raphaël, petite chose. On vous applaudit comme une artiste.
Merci.
Alors... Raphaël, alors d'abord, comment vous avez eu l'idée de chercher ces documents? Vous êtes tombé par hasard? Vous cherchiez
Alors, oui et non. Oui. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, comme j'ai une formation de musicologue, j'adore fouiner pour retrouver, pour mettre en exergue et en valeur des documents qui sont perdus ou faire des liens historiques entre des documents différents. Alors, en effet, mon plaisir est d'aller fouiller dans les archives du Palais Princier, également d'aller voir justement pour les images photographiques, également aux archives audiovisuelles dirigées par M. Vatrican, et qui nous permet justement de mettre en lien avec tous les documents que l'on a. J'ai également fait les archives de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, etc., de l'Opéra, qui permet de mettre en lien plein de choses. Donc, en effet, l'un ne va pas sans l'autre, car des images vont révéler des choses, qui vont aller faire chercher quelque chose, qui vont aller faire retrouver un article, etc., etc. Quand on est au palais, on n'est pas dans une pièce de bibliothèque. En en effet, nous avons ce que l'on appelle des boîtes où il y a des documents. Comme là, pour retrouver la partition donc, de Jules Lechner, c'était une boîte qui est très émouvante, où vous avez des manuscrits, vous avez des partitions imprimées, vous avez différentes œuvres en hommage au prince, dédicacées au prince, etc. Et c'est en découvrant différents manuscrits que, ben, en tant que musicienne, on chante parce qu'on n'a pas d'instrument sur place, parce qu'on ne peut pas sortir les documents qui appartiennent à la famille princière, qui sont des dons et des cadeaux. Donc, du coup, on se chante les partitions dans la tête. Et quand je suis tombée sur la berceuse de votre aïeul, j'ai été très émue. Ouais. Et j'ai senti vibrer ce que vous allez peut-être ressentir tout à l'heure, quelque chose d'émouvant et de qualité. Car évidemment, toutes les partitions qui viennent de travers le monde, uniquement de Monégasque ou de personnes qui sont sur Monaco, du coup, il y a évidemment des qualités très, très divergentes, aussi bien de compositeurs très célèbres, de compositeurs qui ont un attachement avec la principauté, puisque si cette berceuse a été composée, c'est parce que justement, Jules Lechner, comme on vous l'a expliqué, et travaillait pour le palais. Il était donc attaché à la fanfare et donc notamment au carabinier. Donc, il fréquentait la famille princière et il a fait cadeau de cette berceuse. Donc, c'est pour ça que cette berceuse a été pendant des années, non pas entre vos mains, mais donc c'était un cadeau donc offert à la famille princière et caché dans ces fameuses boîtes, car tout cadeau est archivé. Et ces archives, donc... sont entendus parfois, mis en valeur, et parfois ne sont pas mis en valeur, non pas parce qu'elles n'ont pas de richesse, comme là justement avec l'Alliance française, nous avons mis en exergue une pièce de Jean Français où il y avait des danses qui devaient être prévues dans des programmes, mais qui n'ont jamais été jouées parce qu'il a été impossible de les monter parce qu'il n'y avait pas les musiciens qu'il fallait sur place. Donc évidemment, c'était comme ça. Alors juste pour enrichir vos connaissances. Pour revenir à la... Parce que la thématique aussi d'aujourd'hui, c'est l'orchestre. Il faut savoir que l'orchestre de Monaco, il a commencé, bien sûr, comme vous l'avez très bien mentionné, M. Perrengue, par Antoine Ier, qui était un musicien qui avait dirigé, qui adorait l'Opéra de Paris. Mais quand il est revenu prince, c'est lui qui choisissait lui-même tous ses musiciens. C'est lui qui auditionnait et qui choisissait ses musiciens, et il est logé soit au palais, soit ils étaient logés dans la rue droite du palais.
Je reprécise, vous parlez d'Antoine Ier, au siècle précédent, qui a
été l'origine de l'orchestre.
Oui, qui a été effectivement un grand prince, le premier prince musicien, c'est vrai.
Voilà.
Oui, vous avez raison.
Oui, mais vous l'avez évoqué, tout à fait. Oui. Vous l'aviez évoqué, et c'est vrai que comme on est dans les recrutements, et justement la venue de Lechner sur Monaco, c'est vrai que quand il y a eu, après justement Gainsbourg, Monsieur Blanc, etc., ce n'était plus le prince qui choisissait, donc Charles III, qui choisissait les musiciens, parce que là, ils étaient très nombreux, comme vous l'avez mentionné, vous l'avez vu sur les images. Donc justement, c'était ces Allemands qui étaient venus et qui étaient mandatés donc par le prince, qui allaient rechercher dans leur pays, parce que justement à Monaco et dans la région PACA, il n'y avait pas du tout assez de musiciens compétents et de qualité. Donc ils ont retourné dans leur pays pour justement demander à des musiciens compétents et donc valeureux de revenir vers eux pour des contrats sur Monaco. Donc le recrutement, d'abord, ça a été par le prince Antoine Ier lui-même. Et il faut savoir qu'au palais, ça chantait, c'était de la musique. Et je vous avais parlé à la conférence où j'ai assisté de Marie Péline.
Oui, pour la bien partition. Sûr, la fille, absolument, et la partition de Couperin. Oui.
Voilà, la partition de Couperin. D'où les liens du prince Antoine Ier qui vivait en France et au début, quand il était jeune, et donc il avait gardé ses contacts et il remontait avec son premier orchestre dans la cour du palais princier, et c'est pour ça qu'en mémoire donc on a à nouveau les concerts au palais princier, parce que tout était remonté au palais, et justement toutes les musiques, les premiers opéras, dès qu'ils étaient joués à Paris, monsieur Antoine Ier, notre prince, prince. Donc venez tout de suite les commander et les refaisez monter. C'est pour ça que la principauté, au niveau artistique, était vraiment une des premiers plans au niveau européen, même par rapport à l'Italie. C'est que déjà, l'Antoine Ier, avec son orchestre, avait tout de suite impulsé et remonté tous les spectacles de Paris.
C'était un petit orchestre de chambre à cette époque-là, au XVIIIe siècle.
Oui, tout à fait, mais qui suffisait.
Mais qui suffisait pour la musique de l'époque.
Et les chanteurs aussi, les ça chanteurs, suffisait, etc. Donc, ils faisaient venir, et on avait trois, avant justement que le palais ait été pillé par la Révolution et tout, on avait trois bibliothèques que vous pouvez toujours voir qui sont en bois avec le fer forgé, qui sont toujours existantes mais vides, parce que les partitions ont été malheureusement démantelées, et qui représentaient tous les opéras qui avaient été montés. Donc, voilà, par rapport au recrutement, ça a été l'évolution, donc justement, et tout. Et les cadeaux de la partition, donc tout n'est pas imprimé, et je vous ai apporté juste un petit échantillon pour vous montrer comment je travaille et sur quel support.
Oui, absolument, et il faut suivre les articles de Raphaël Loublier dans les annales de Monaco, qui sont vraiment une grande richesse pour tous ceux qui s'intéressent à la musique de Monaco, et j'espère que Raphaël reviendra peut-être par exemple à la conférence prochaine, qui sera consacrée plutôt sur Albert Ier et les musiciens, parce qu'elle est une grande spécialiste de cette époque-là. Alors, vous avez apporté des documents.
Voilà, j'ai apporté des documents pour vous montrer comment donc, on arrive à avoir donc, des manuscrits, donc la fameuse berceuse. Donc, on peut avoir des programmations pour voir si l'œuvre a été jouée ou pas. On épluche tous les journaux de l'époque, le journal de Monaco. Donc, je vous ai apporté une page. Où là, justement, c'est en lien avec une de mes partitions. Donc, du coup, on peut savoir si ça a été joué, programmé. C'est comme ça qu'on sait que la berceuse n'a jamais été entendue programmée en public.
En public.
Exactement. Voilà. En public, on sait qu'elle n'a jamais été programmée. Voilà. C'est pour ça qu'avec l'Alliance française,
on avait une première mondiale
et vous l'avez entendue pour la première fois.
Et ça sera presque là, une deuxième mondiale là, aujourd'hui.
Exactement. Après, nous pouvons trouver des partitions donc publiées, donc qui ont été éditées, qui ne sont pas forcément jouées non plus, mais qui ont été offertes après l'édition.
Mais qui n'a pas forcément d'intérêt non
plus.
Qui
n'a pas forcément d'intérêt non plus, ou parfois oui. Donc là, par exemple, j'ai le bateau espagnol avec justement des paroles de Léo Ferret, qui est également monégasque.
Oui, bien sûr.
Après, on peut trouver des petites choses comme ça, amusez-vous, des petites chansons qu'on faisait à l'époque sur des opérettes. L'opéra sur Florestan Ier, par exemple. Voilà, donc vous avez des petites opérettes. Voilà ce que je trouve quotidiennement dans les boîtes. Ouais. Et puis, sinon, ben, vous avez aussi des choses qui ont été publiées après, dont le palais a permis d'avoir eu un développement par rapport sur des cantates populaires. Donc là, vous avez sur des partitions officielles, qui sont devenues officielles, carrément le blason du palais.
Bah, toute une richesse extraordinaire. Voilà. Et le problème avec la musique, c'est que pour être diffusée, il faut des musiciens pour la jouer. Hein, lorsqu'on a des peintures anciennes ou des écrits anciens, on peut les montrer, on peut les faire lire à une petite collectivité. Mais là, les partitions musicales, qu'elles soient modestes, une simple petite chanson ou un opéra entier, il faut des musiciens pour les jouer. Et sans ça, ces musiques restent lettres mortes. Et il faut avoir la chance de tomber sur une musicologue, par exemple, comme vous, Raphaël, pour que cette berceuse soit à nouveau entendue.
Et entendue grâce à l'Alliance française, puisque j'ai eu l'honneur et la chance que M. Yves Giraudon me permette de me donner justement la possibilité d'embaucher des musiciens pour pouvoir jouer toutes les partitions que j'ai retrouvées autour du prince Régnier III. Voilà. Et pour écouter cette berceuse, justement, et pour laisser la place et pas prendre trop la parole.
Non, mais c'est très intéressant. Vous continuez.
On nous avions diffusé notamment, c'est pour vous mettre en lien justement tout ce qui est intéressant par rapport donc à la berceuse que je vais vous laisser écouter, justement une photo de la naissance du prince Régnier.
Ah ben attendez, on va voir ça de près. Ouais. Qu'il est mignon. Ah, oh, écoutez, le prince Régnier, vous ne l'avez jamais vu comme ça. On va le faire passer, là. Vous êtes sûr que c'est le prince Régnier?
Oui, c'est le prince Régnier. Ouais. C'est une photo officielle de De Taille, hein, qui était le photographe du palais à l'heure actuelle. Et Madame De Taille, donc est une descendante, m'a donné l'autorisation, puisque à chaque fois, bien sûr, comme vous l'avez compris, il faut demander des autorisations à chaque fois, puisque ce sont des biens privés et il y a des droits d'auteur, comme en musique, hein,
oui,
comme
bien
partout.
Sûr, absolument. Oui.
Voilà, si vous voulez, je vous le fais passer.
Oui, absolument. Voilà. Et donc, ce beau bébé a été bercé, enfin, de moi, on le suppose, par la berceuse que voici, alors qui a été enregistrée grâce à l'Alliance française par deux musiciens que nous connaissions à Monaco, qui est l'excellent violoncelliste soliste de l'Orchestre Philharmonique du Monte Carlo, qui est Thierry Amadi, et la pianiste, et c'est une pianiste professeure à l'Académie, qui s'appelle Isabelle Alonso. Et voici cette très belle berceuse. belle musique. Hein, on peut... Alors, on va... plusieurs applaudissements. D'abord, on va applaudir ce monsieur qui est le compositeur. Hein, voilà, vraiment. On applaudit sa famille. Ils sont là. Hein. Et puis, on applaudit Raphaël Loublier, grâce à qui on a pu avoir cette... En espérant qu'elle reviendra parmi nous, comme ça, pour parler, par exemple, d'Antoine Ier, non, d'Albert Ier et ses musiciens. Alors, dans le quart d'heure qui nous reste, je vais continuer la chronologie de l'orchestre, de l'histoire de l'orchestre, et vous avez compris que nous étions à une époque, au début des années 1890, donc où a été recruté Jules Lechner, et où est arrivé un personnage extraordinaire dans l'histoire de la musicale et artistique de la Principauté de Monaco, c'est Raoul Gainsbourg. Raoul Gainsbourg était jeune lorsqu'il est arrivé à Monaco. Il est resté 60 ans, il avait 30 ans, il est resté pratiquement jusqu'à 90 ans, il est resté presque 60 ans à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo, puisqu'il a quitté ses fonctions en 1950. Donc, alors, il n'y a pas si longtemps, et c'était un homme du 19e siècle. Et c'est un homme qui a révolutionné l'histoire de l'opéra. Donc, par voie de conséquence, celle de l'orchestre, en faisant entendre des musiques que les Monégasques n'avaient jamais entendues auparavant, et puis en faisant venir les ballets russes. Hein, alors, les ballets russes, ça a été si important dans l'histoire dans l'histoire artistique de la Principauté de Monaco. Nous en parlerons, je pense, dans la séance prochaine, mais en faisant venir des compositeurs comme Stravinsky, comme Ravel, et puis en faisant venir à l'opéra des compositeurs qui ont été également les amis du prince Albert Ier, Massenet, Saint-Saëns, Gabriel Fauré. Et Raoul Gainsbourg était à l'origine de tout cela. Alors, qui était-il ? C'était un jeune homme qui était né à Bucarest, en Roumanie, qui avait perdu son père très, très tôt et à qui sa mère avait donné vraiment le goût des arts. Et ma foi, même s'il avait fait des études de médecine, il se dirigea très rapidement dans le domaine artistique. Mais auparavant, il fit son service militaire, comme on dit, lors d'une opération russe dans la guerre russo-turque. Là, je ne connais pas exactement les détails, mais enfin, il s'y fit remarquer. Il s'y fit remarquer, même par le tsar. Hein, on rapporta au tsar ses faits d'armes, mais il fut blessé. Et il fut soigné pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, à côté d'un autre soldat qui a été blessé, qui était musicien, lui, et qui lui donna le goût de la musique, il lui apprit même à lire la musique. Aussi, lorsque son service militaire fut terminé, il demanda à sa mère de pouvoir aller à Paris, qui était quand même une capitale de référence. Il y avait Paris et Vienne dans le domaine de la musique. Elle avait choisi Paris. Et sa mère, pour satisfaire son désir d'étudier les arts, avait, dit-on, vendu tous ses meubles pour lui permettre d'aller faire un voyage à Paris. Et c'est là qu'il commença errer dans le domaine artistique. Il ne savait pas s'il ferait du théâtre, de la musique, mais enfin, il commença à avoir une certaine influence. Et puis, il repartit en Russie. Et c'est là qu'en Russie, il se fit remarquer, en particulier comme critique, pas comme critique musicale, mais comme critique théâtrale. Il était à Saint-Pétersbourg, et à Saint-Pétersbourg, Sarah Bernhardt, que nous avons rencontré la fois dernière, puisque c'est elle qui inaugura l'opéra de Monte-Carlo, Sarah Bernhardt se produisait à ce moment-là, et voilà ce que le jeune critique théâtral, Raoul Gainsbourg, écrivit. Elle se réservait pour les grandes scènes dramatiques à partir du troisième acte, mais pendant les deux premiers, c'était du bafouillage, on ne comprenait pas un mot. Bon, ma foi, des articles, il y en a beaucoup. Eh bien, celui-ci a une conséquence considérable. La moitié de la ville annula ses réservations au théâtre. Et alors, on commence à se demander, mais qui est ce personnage si influent qui entraîne que le public ne vienne plus au théâtre sur une simple réflexion sur Sarah Bernhardt. On commence à s'intéresser à lui. Et il devint effectivement un personnage un peu particulier dans le paysage artistique de Saint-Pétersbourg. Et un jour, il se manifesta d'une façon extrêmement curieuse. C'était en hiver, hein, il neigeait beaucoup, et il était au restaurant, et il voit dans la rue une grande duchesse importante qui pataugeait dans la boue. Elle sortait d'un taxi à cheval. Il sortit du restaurant, il prit son manteau, il déploya le manteau dans la rue pour permettre à la dame de traverser à pied sec la rue. Et ceci fut un geste théâtral, bien entendu, mais si singulier que le tsar fut prévenu. Vous voyez, il y a un original comme ça qui déploie son manteau pour que les aristocrates traversent la rue par temps de neige. Et le tsar lui confia la direction d'un théâtre. Un théâtre, voilà, et où il commença, en tant que directeur de théâtre, à faire venir des artistes importants, à faire venir également des musiciens importants, puisque Franz Liszt passa par là, Anton Rubinstein, Johann Strauss, etc. Et donc, il commençait vraiment à faire parler de lui. Mais son but, ce n'était pas forcément encore de venir à Monaco, mais c'était de revenir en France, parce que du temps de sa jeunesse, l'activité artistique française l'avait beaucoup impressionné. Et ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'il fut pendant un an directeur de, en 1989, directeur de l'Opéra de Lille. Mais surtout, pendant deux ans, avant de venir à Monaco, en 1890 et 1891, directeur de l'Opéra de Nice. Donc, et à Nice, il a révolutionné les choses. Il a fait entendre, je crois, Wagner pour la première fois. On entendit à l'Opéra de Nice Don Giovanni de Mozart, qu'on n'avait jamais entendu. Voilà. Et donc, il se fit remarquer. Et puis, évidemment, étant à Nice, il y avait la principauté de Monaco, là, qui était à côté, dans laquelle on avait créé, on avait construit cet opéra fantastique par Charles Garnier, dont il voyait les possibilités. Et il a voulu postuler pour la direction de l'Opéra de Monte-Carlo. Et pour cela, il s'est fait aider par le tsar, qu'il avait remarqué, le tsar qui est entré en communication avec le prince Albert Ier. Et Albert Ier nomma Raoul Gainsbourg à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo. D'ailleurs, avec des conditions un petit peu particulières, il avait apporté, enfin je l'avais noté quelque part, il s'était engagé d'ailleurs à rembourser une certaine somme lui-même, personnellement, s'il y avait un certain déficit. Enfin, c'était un homme d'affaires. Hein. Il savait séduire par son charisme personnel. Il savait, et par son savoir faire de directeur, mais c'était un homme d'affaires, donc il avait engagé sa fortune propre, en fait, dans la direction de l'Opéra de Monte Carlo. Mais comme ça marcha magnifiquement, il n'eut pas besoin de verser sa fortune personnelle dans l'aventure. Et tout de suite, la princesse Alice, puisque le prince Albert Ier de Monaco était remarié avec la princesse Alice, dont on a vu la photo tout à l'heure. La princesse Alice, ce fut la première princesse américaine de Monaco. Hein. On pense souvent que la princesse Grace fut la première princesse américaine. Non, la princesse Alice Hine, seconde femme du prince Albert Ier de Monaco, fut une princesse américaine, puisque elle venait des États-Unis. Albert Ier s'était marié deux fois. Il s'était marié une première fois 20 ans plus tôt avec une aristocrate d'ascendance anglaise, avec laquelle il avait eu son fils Louis II. Mais les choses s'étaient fort mal passées, puisqu'il y avait eu un divorce presque aussitôt. Et Albert Ier Alors, le divorce, c'était très mal passé. Et Albert Ier n'avait eu le droit de voir son fils, Louis II, qu'à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire pendant toute l'enfance de Louis II s'est passée sans son père. Voilà pourquoi les relations entre Louis II et Albert Ier ont toujours été un petit peu équivoques. Hein. Donc, le prince avait été privé de voir son enfant pendant toute son enfance. Donc, je reviens à Alice Hine. Alice Hine était amoureuse des arts, hein, et heureusement d'ailleurs, parce que le prince Albert Ier était, et on le dira avec Raphaël la prochaine fois, vraiment un amoureux des arts, hein, il aimait les compositeurs, mais il aimait surtout la mer. Et c'est lui qui a fait ses campagnes océaniques, 28 campagnes océaniques sur les océans du monde. Et j'allais dire la charge de sa vie, sa mission sur Terre, si on peut dire, c'est de faire vivre la mer. Et son grand succès, ce fut évidemment la construction du musée océanographique de Monaco. Pour lequel, d'ailleurs, il a demandé à deux compositeurs de faire la musique pour l'inauguration, à Massenet et à Saint-Saëns. Mais donc, les Monégasques étaient quand même un petit peu inquiets, les Monégasques qui aimaient les arts, de dire, ben voilà, nous avons un prince, mais le prince, il s'intéresse surtout à la mer, à l'écologie. Et ce fut un grand scientifique, très considéré et respecté par les scientifiques du monde entier, jusqu'en Amérique, puisqu'il fit des conférences jusqu'en Amérique. Donc, pendant qu'il n'était pas là, c'est la princesse Alice qui s'occupait un petit peu de musique. Et donc, lorsque Raoul Gainsbourg arriva à la direction de l'Opéra de Monte-Carlo, la princesse Alice lui demanda, et le prince Albert Ier, évidemment, par voie de conséquence, de prendre une décision sur la nomination du chef d'orchestre. Parce qu'il se trouve qu'il y avait deux chefs d'orchestre jusqu'alors, Arthur Steg, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était chargé des concerts symphoniques, et Léon Géin, venu du nord de la France, même de Belgique, qui était chargé de l'opéra. Et disons qu'ils ne s'entendaient pas très bien. Ça arrive. On ne met jamais deux chefs sur un même poste, hein. Même si l'un est chargé du lyrique et l'autre chargé du symphonique. Et donc, le prince Albert Ier, la princesse Alice, demanda comme première décision à Raoul Gainsbourg de trancher l'affaire des deux chefs d'orchestre. Il devait y en avoir plus qu'un. Et voilà, il envoie la lettre suivante. Raoul Gainsbourg reçut la lettre suivante. « La désignation du chef d'orchestre du théâtre vous appartient. » Mais nous espérons que vous ne refuserez pas de porter votre choix sur M. Léon Géin. C'est une façon princière. Et donc, ce fut Léon Géin qui fut nommé à la direction de l'orchestre. Et le pauvre Arthur Steck, je dis pauvre, enfin voilà, il repartit dans la région parisienne. Il avait fini pendant 10 ans son stage ici, sa présence à Monaco, où il avait été d'ailleurs un très grand chef, comme je vous l'ai dit la fois dernière. Quant à Léon Géin, il était initialement violoniste à l'Opéra de Bruxelles, à la Monnaie, et puis il était devenu chef d'orchestre, il avait dirigé en Allemagne, en Autriche, en Angleterre. Il était également compositeur, hein, mais c'est sous sa direction que se passa cet essor considérable de la musique à Monaco au début du XXe siècle, et en particulier avec les ballets russes. Et c'est ainsi que on entendit là encore des musiques qu'on n'avait jamais entendues, hein. Des musiques qu'on ne joue plus maintenant, parce qu'à cette époque-là, il se passait quelque chose qui ne se passe plus trop maintenant, c'est-à-dire on faisait beaucoup de musique contemporaine, c'est-à-dire on faisait beaucoup jouer des musiques des compositeurs de l'époque. Alors parmi ces musiques, il y avait des musiques intéressantes, bien sûr, c'est normal, puis il y avait quelques chefs-d'œuvre, et toutes ces musiques, on les a complètement oubliées. Et lorsque nous parcourons les programmes de cette époque-là, on voit des noms de compositeurs qu'on ne connaît plus du tout, qui ne sont plus joués, dont les musiques étaient relativement inintéressantes. Et puis il y avait alors des musiques qu'on entendait pour la première fois. Ainsi, par exemple, des œuvres de Brahms, qu'on avait jamais, de Saint-Saëns, de Wagner, compositeur de Bréville, de Busser, d'Édouard Lalot. Ben, Édouard Lalot est un compositeur quand même relativement connu à cette époque-là. La Symphonie de Franck en 1897, qu'on n'avait jamais entendu. Mort et Transfiguration de Richard Strauss, c'était audacieux là, de faire entendre cela. C'est grâce à Léon Géhin. Et puis ben, je vais faire quand même une petite respiration musicale, mais je crois que nous allons peut-être arriver presque au bout de notre heure. On entendit pour la première fois ben, une œuvre que je vais vous faire entendre pour terminer, au moins un extrait, qui était le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Hein, voilà une œuvre qui marque son époque, qui marque cette époque-là et que Monaco n'avait jamais encore entendue. On va l'entendre, on entend le début. Je m'excuse, je suis obligé de couper parce qu'on est arrivé au bout de l'heure. Magnifique musique, hein, la musique devient impressionniste à la fin du 19e siècle. Et Léon Géhin et Raoul Gainsbourg permettent au Monégasque d'entendre cette musique nouvelle, cette musique moderne. Alors, pour attirer le public italien, j'ai vu dans les programmes que je parcours, hein, un petit peu comme le fait Raphaël, parce que nous parcourons les programmes et les vieux journaux, c'est un petit peu, ça fait partie un peu de notre métier, des choses extrêmement curieuses. Parce que pour attirer le public italien, par exemple, il fait représenter Carmen en italien. Bon, c'est quelque chose qu'on ne ferait plus maintenant. Mais il fit surtout, et je vais terminer là-dessus, et j'en parlerai, je pense, la prochaine fois, il fit en 1893, donc il a été nommé en 1892, donc la seconde année de sa présence, un coup d'éclat en transformant la damnation de Faust en opéra. Et parce que la damnation de Faust, de Berlioz, était à l'origine un oratorio. Ce n'est pas du tout prévu pour être mis en scène. C'était prévu pour être chanté, accompagné par l'orchestre. Et Raoul Gainsbourg dit, mais c'est un sujet d'opéra. La musique est même une musique d'opéra. Et il organisa, alors bien après la mort de Berlioz, hein, puisque Berlioz était mort bien longtemps avant, mais il organisa la première représentation scénique de la damnation de Faust. Et ça, ce fut un coup d'œil. C'est lui-même qui le mit en scène. Avec, je vous lirai, là, je vais peut-être terminer là-dessus, en lisant l'éblouissement du journal de Monaco. Ce qui se passe ce jour-là, une mise en scène spectaculaire avec un cyclorama qui se déroulait pour symboliser le mouvement des chevaux qui vont vers l'enfer. C'est quelque chose de considérable. Et ça, c'est le premier coup d'éclat de Raoul Gainsbourg, et il y en aurait tant et tant d'autres. Je vous lis le compte-rendu de la première représentation. La première représentation de la damnation de Faust de Berlioz a été un événement de la plus grande importance pour le monde musical. Monsieur Raoul Gainsbourg a tenté avec un immense succès à la scène ce qu'on fait depuis longtemps déjà devant un public spécial, Monsieur Padeloup et Colonne, à Paris, hein, mais pas à Monaco. Ceux-ci ont démontré que l'œuvre du grand musicien, incompris de ses contemporains, était véritablement marquée en certains endroits du sceau du génie, et que Berlioz avait droit à sa place parmi les grands compositeurs français d'opéra, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Monsieur Gainsbourg a prouvé que cette œuvre pouvait réussir sur une scène lyrique. La partition d'une main, le poète de Goethe de l'autre, l'habile directeur du théâtre de Monte-Carlo a édifié un véritable monument théâtral. Ce que nous avons vu samedi soir est donc, comme nous le disions plus haut, un véritable événement. Un public d'élite assistait à cette solennité à laquelle étaient conviés, entre autres, les maîtres de la critique, les principaux journaux de Paris, un grand nombre de représentants de la presse étrangère, et tous nos confrères du littoral avaient été conviés, divisé en 12 tableaux. Enfin, après, il décrit, hein, il décrit tout ce qui s'est passé. Et puis, eh ben, les interprètes, hein, la soprano était Madame d'Alba, hein, qui chantait le rôle de Marguerite. Elle devint par la suite la femme de Raoul Gainsbourg, qui courait après, hein, après les femmes. Hein. Il n'a pas été un mari très fidèle. Hein. On le surnommait, Raoul Gainsbourg, Divan le Terrible, puisqu'il venait de Russie. Hein, bon. Donc le bal, et puis le ténor était le grand ténor polonais à l'époque, Jean de Reszkay. Vraiment, on a fait venir les plus importants. Tous ont été applaudis, le ballet et la scène de la séduction, cette page si brillante de la partition, en valut à Mademoiselle Zucchi, qui devait être la danseuse principale, un réel succès. Quand à la conduite de l'orchestre, sous la direction de Monsieur Géin, il s'est véritablement surpassé, en résumé, ainsi que toute la presse est unanime à le proclamer, la première de la damnation de Faust prendra rang dans les annales du théâtre comme des plus belles soirées de Monte-Carlo. Voilà, vous voyez, la preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui en ce 5 décembre 2021, où je vous remercie... 24. Ah oui, je suis dans l'histoire. Où je vous remercie d'être venu. Merci.